La longue silhouette se dessinait de plus en plus nettement dans le brouillard, jusqu'à le déchirer, avant de s'arrêter à l'entrée du domaine. La femme, puisque c'est d'une femme dont il s'agissait, leva les yeux vers les lions sculptés dans la pierre, assis au sommet des deux piliers massifs. Il semblait la mettre au défi d'entrer. Viviane Lombard, puisque tel était son nom, hésita à s'engager dans l'allée cavalière encadrée de bois denses et bordée de chênes moussus dont les ramures se rejoignaient en une voûte de branches dénudées. Lui vint alors à l'esprit l'idée qu'elle pouvait encore faire demi-tour et reprendre un train pour Londres. Ou se jeter sous un train pour Londres. Non, cela créerait trop de désagréments au chef de gare, aux voyageurs, à tout le monde, et causerait beaucoup trop de chagrin à Émilienne, sa cousine. Sur ces considérations, Viviane se décida à pousser les lourdes grilles de Winnicott Hall, qui laissèrent alors échapper comme un cri strident. Elle progressa un moment sur le sentier sinueux, avant d'apercevoir enfin, au détour d'une courbe, une immense bâtisse noyée dans la brume. Elle marcha encore deux bonnes minutes et finit par mieux distinguer le manoir. Winnicott Hall était un bijou de l'architecture anglaise du XVIIe siècle. Tout de pierre grise et percé d'une multitude de fenêtres à guillotine et à petits carreaux, de vitraux et autres bay windows. Viviane atteignit enfin l'imposante porte d'entrée rouge et son heurtoir de bronze. Un faune grimaçant qui tenait dans sa bouche un énorme anneau. Elle frappa trois coups. Bang ! Bang ! Bang ! Elle ne doutait pas qu'on les avait entendus. Ils avaient semblé résonner à travers toute la demeure. Elle attendit et s'apprêtait à frapper une nouvelle fois lorsqu'un homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants et au visage peu amène, lui ouvrit. Il eut un mouvement de recul en la voyant et lui jeta à la figure un cinglant « Nous n'avons rien à vous donner à manger ». Viviane le toisa et annonça froidement « Je suis Miss Lombard, la nouvelle préceptrice. » « Oh !» Dubitatif, le grossier personnage leva un sourcil avant de la détailler. « Négligé » fut le premier mot qui lui vint à l'esprit, puis « revêche ». Sous son vieux couvre-chef aux bords élimés, elle était d'une pâleur maladive, accentuée sans doute par ses cernes et son manteau sombre, par ailleurs trop grand et mité. L'homme en noir accorda à la visiteuse le mérite d'une certaine audace, voire hardiesse, pour oser se présenter ainsi au monde. « Nous ne vous attendions pas avant demain. »« Comment cela ? » ?»« Je m'étais pourtant entendu avec Mrs. Montgomery sur la date du 17 février. »« Vraiment ?» Il s'écarta enfin pour la laisser entrer, puis referma derrière elle. « Je vais chercher madame. » Il s'éclipsa par une double porte. Seule dans le vestibule, Viviane ôta son chapeau et observa le sol en marbre blanc et cabochons noirs, l'escalier en chêne, dont les marches étaient en partie recouvertes d'un tapis à dominante rouge, les portraits qui vous accompagnaient jusqu'à l'étage et le lustre monumental. Des bruits de coups lui parvinrent soudain, puis des éclats de voix. La double porte s'ouvrit alors sur l'homme hostile, accompagné d'une élégante jeune femme blonde à qui Viviane ne donna guère plus de 30 ans. « Mrs. Montgomery, » s'annonça la maîtresse de maison en lui tendant une main délicate que Viviane secoua de manière un peu rude. « Viviane Lombard. Enchantée, mademoiselle. » Une fois libérée de la poigne énergique, Lucille Montgomery étudia son interlocutrice avec une pointe de curiosité qui confinait presque à la méfiance. Visiblement, cette étrange apparition se coupait les cheveux elle-même. Et n'était-ce pas un trou dans son manteau ? « Je suis terriblement confuse, » s'exclama Lucille. « J'étais persuadée que nous étions le 16, mais Mr. Talbot, notre précieux majordome, dit-elle en désignant le malotru qui avait si mal reçu Viviane, m'a confirmé que nous étions bel et bien le 17. Vraiment, je suis navrée. Comment êtes-vous parvenue jusqu'ici ? « À pied. »« Depuis la gare ? Mais cela a dû vous prendre un temps fou. »« un peu plus d'une heure. Grand Dieu ! Comme j'ai honte ! Ne vous inquiétez pas, j'ai pu apprécier la campagne du Sussex, c'est-à-dire entre deux nappes de brouillard. Lucille rit nerveusement, puis fit remarquer « C'est étrange, votre accent français est beaucoup moins prononcé qu'au téléphone. Ah ?»« Mais ne vous méprenez pas, ma chère, il n'en est pas moins délicieux. En revanche,
oui,
j'avais cru comprendre que vous aviez 38 ans. C'est exact. Ah !»
Mr. Talbot sourit. De nouveaux bruits sourds vinrent interrompre le silence gêné qui s'était installé.
« Nous sommes en plein travaux, » expliqua Lucille.
Son regard balaya le vestibule.
« Vos bagages sont restés à la gare, je présume ?»«
En effet, une malle et une valise. »
Mr. Talbot sourit de nouveau à la pensée que ses effets n'auraient pas le temps de passer par la case « manoir ». À n'en pas douter, Mrs. Montgomery allait renvoyer sans délai cette grande gigue mal dégrossie dans ses French pénates.
« Eh bien, » fit Lucille, en se tournant vers son majordome, « il faudra que vous envoyiez Bertram les chercher au plus vite. »«
Attendez !» l'interrompit Viviane. « Je veux rencontrer votre fils avant de me décider. »«
De vous décider ?»«
Je veux dire, avant d'accepter cette place. »«
Pardon ?»«
C'est-à-dire que, vous comprenez, je veux être sûr d'avoir envie de travailler ici. »
Mr. Talbot, outré, sursauta presque avant de regarder la maîtresse de maison. Cette dernière, bien que déstabilisée, ne se départit nullement de son flegme tout britannique.
« Comment cela ?»«
C'est que, comment dirais-je, j'ai eu mon compte d'élèves difficile, pour ne pas dire abruti, parfois. Je crains de ne plus avoir la patience nécessaire à une telle entreprise. »«
Mademoiselle ?» réussit à articuler Lucille en dépit de sa mâchoire crispée. « Je vous assure que George est loin d'être difficile, et encore moins abruti. »
« Je n'en doute pas, mais je préfère m'en assurer par moi-même. »
« Eh bien... »
Lucille réfléchit à toute vitesse et arriva à la conclusion qu'elle n'avait guère le choix. Cette énergumène était la seule préceptrice qualifiée à avoir fait le déplacement.
« Soit... »
Elle jeta un regard désespéré à son majordome, puis s'attarda sur le manteau de Viviane.
« Voulez-vous que Mr. Talbot vous débarrasse ?»«
Je veux bien. »
La visiteuse tendit son manteau et son chapeau usé au chef du personnel qui s'en saisit du bout des doigts, puis Lucille l'invita à la suivre. Toutes deux traversèrent le vestibule avant de s'engager dans l'escalier. La nature humaine est ainsi faite qu'il avait suffi que Viviane évoquât la possibilité de refuser l'emploi pour que la maîtresse des lieux eût tout à coup une furieuse envie de la voir tomber sous le charme de son fils et de la maison. Des travaux étaient également en cours à l'étage.
Le manoir a été à l'abandon pendant des années. Enfin, il était occupé, mais disons que son propriétaire, vieillissant, avait cessé de l'entretenir. Il n'avait pas d'enfant et savait que le domaine reviendrait à un lointain parent, mon époux en l'occurrence.
Elles s'arrêtèrent sur le seuil d'une pièce dont les boiseries venaient visiblement d'être restaurées.
« Ce sera ma pièce, » expliqua Lucille en y entrant. « De vous à moi, je ne sais pas encore ce que j'y ferai. J'y lirai, sans doute. Quoi qu'il en soit, je pense y mettre ma collection de poupées anciennes. »
Elle sembla considérer cette éventualité un instant, puis reprit
« Enfin, ce qui est sûr, c'est que je veux un lieu à moi. Vous comprenez ?»«
J'imagine que vous connaissez Virginia Woolf. »«
Pas personnellement, hélas, mais je connais son œuvre. »« Savez-vous qu'elle habite près d'ici ?»«
Je l'ai entendu dire, oui. »«
À Rodmel, » précisa une Lucille pas peu fière. « Nous avons un nid d'écrivains dans la région. » Henry James a vécu à Rye. Rudyard Kipling vit à Burwash.
Oh,
mais où en étais-je? Ah oui, je veux un lieu à moi. Je vous comprends.
Oh, combien?
Lucille se détendit un peu. Suffisamment pour se risquer à montrer un échantillon de tapisserie à la peut-être future préceptrice de son fils.